18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes jeudi 20 mai et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. Thomas a interviewé pour nous plus tôt dans la journée Tiffaine Siré, chargée de communication de la REDADEC, cette course à pied de relais parcourant toute la Bretagne, à retrouver en deuxième partie d'émission. Peut-être vous souvenez-vous, en février 2020, Charline Guillou, présidente de l'association Sailing Hirondelle, est venue nous parler de leur projet d'expédition Sea the Future, d'une durée d'un an sur les mers d'Europe du Nord-Ouest. À la fin du mois, l'équipe repart pour une nouvelle expédition nommée Les Mots Bleus. Et pour nous en parler ce soir, on a avec nous la coordinatrice scientifique Louise Rasse. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour celles et ceux qui ne se souviennent plus très bien, est-ce que tu peux nous rappeler les objectifs de l'association dont tu es une des cofondatrices ?
Oui, alors c'est créer des supports de sensibilisation à une relation humain-océan plus durable. Donc toutes nos interactions, qu'elles soient directes ou indirectes avec l'océan, et le tout dans un contexte de forte pression de la part des activités humaines sur ce milieu.
Et donc, comme je l'ai dit, on avait parlé en février 2020 du projet d'expédition Sea the Future. Alors, ce que nous avait entre autres expliqué Charline, c'était que la goélette en bois, elle devait naviguer jusqu'à l'Angleterre, puis l'Irlande, toucher la Norvège, le Danemark, pour aller à la rencontre des habitants et les sensibiliser à la pollution des océans. Et en fait, c'était un mois avant le tout premier confinement, c'était il y a un an. On imagine que l'année, elle a été bien mouvementée. Finalement, comment elle s'est passée, cette expédition ?
Rien ne s'est passé comme prévu, forcément, pour personne cette année. Mais là, peut-être encore plus, parce qu'on avait vraiment passé un an à préparer cette expédition. On devait partir début février et il y a eu une série de tempêtes, plein de tempêtes. Ce qui a été d'ailleurs assez intéressant parce que en discutant, que ce soit avec des chercheurs ou avec des navigateurs, tous nous disaient, une telle fréquence de tempêtes qui arrive avec une telle récurrence au mois de février, on a rarement vu ça. On est en train de battre des records et c'est sans doute lié aussi au changement climatique. Donc c'était intéressant, mais ça nous arrangeait pas tant. Et on devait partir pour Concarneau, lancer notre série de podcasts qui s'appelait Radio Sea the Future, et à Explore, à Concarneau. Et donc on a pu partir enfin le 6 mars, donc après 3 semaines d'attente, pour trouver la fenêtre météo. Arrivé à Concarneau, on a pu lancer la chaîne de podcasts. Enfin, ça a été vraiment une superbe escale. Il y a eu encore les tourments de la météo. On est reparti quand même pour l'Angleterre et à Pinmar, on s'est fait arrêter par une mer qui était assez déchaînée et le vent qui n'arrêtait pas de monter. Et on s'est dit non, mais là, c'est pas possible, on peut pas. Il y a toute la moitié de l'équipage qui avait le mal de mer. C'était vraiment compliqué. Et donc, on s'est arrêté au Guilvinec avant de partir au Royaume-Uni. Et au Guilvinec, on s'est arrêté dans un petit bistrot le soir pour tous boire une pinte après cette très rude traversée de Concarneau à Parma, alors que c'est pas très loin, certes. Et c'est là où en fait il y a eu l'annonce du confinement, enfin que les bars allaient fermer ce soir même, et après l'annonce du confinement. Et donc là, on a dû se replier à Loctudy, où on est resté confiné pendant tout le confinement. Et après ça, on est rentré à Brest en se disant « l'Europe du Nord-Ouest, ça paraît assez compliqué cette année finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?» Nous, on voulait faire du local. Ça fait partie de l'identité, vraiment de la trame de l'association à l'origine. C'était vraiment être sûr, montrer les impacts locaux. Comment, à travers le témoignage, beaucoup, parce qu'on entend des chiffres de scientifiques qui vont dire il y a telle puissance en plus ou tel nombre. On voit des graphiques, des camemberts, des courbes. Il y a des gens à qui ça parle entièrement. Et après, il y a plein de gens à qui ça parle pas du tout. Et on n'arrive pas à se représenter ce que ça veut dire, ces chiffres. Alors que finalement, quand on entend quelqu'un en parler, juste à côté, un voisin en parler, on se rend compte que c'est très tangible, que c'est réel, que ça se passe dans notre vie à nous. Donc nous, on voulait vraiment cet aspect local. C'est pour ça qu'on avait choisi d'être en Europe. Du coup, on s'est dit, quitte à être local, on n'a qu'à rester en Bretagne. Comme ça, on passe 5 mois à être vraiment interviewé des Bretons sur le littoral breton. Enfin, pas que des Bretons, mais en tout cas, partie. Les personnes qui sont sur ce littoral. Et d'accueillir à bord des projets qui vont créer des outils de sensibilisation, toujours imprégnés de ces témoignages, imprégnés de ce qu'on nous raconte en fait, pour raconter un peu ce littoral face à des changements, montrer un peu les impacts à l'échelle locale, relier avec de la donnée scientifique, avec autre chose, parce que évidemment, on se contente pas de partager des témoignages, on essaie d'apporter aussi de l'information en plus. Et donc voilà, ça a fini totalement différemment que tout ce qu'on avait anticipé, et c'est pas plus mal en fait, c'était hyper intéressant.
Ce confinement et tout ce qui en a découlé, ça a été très compliqué pour tout le monde, notamment psychologiquement. Comment est-ce que toi et tout l'équipage, vous l'avez vécu ?
Sur le moment, je sais pas, plutôt bien. On était fatigués, on venait de partir sur... Enfin, ça faisait des mois qu'on préparait, qu'on enchaînait des journées, vraiment des grosses journées de travail. On était fatigués, donc bon, on nous annonce 2 semaines de fermeture. On se dit, bah, c'est chouette, on va se reposer un peu. Puis après, ça a commencé à durer, et là, on commençait à, je pense, enfin comprendre l'ampleur de la situation. Là, ça a été un peu démoralisant, parce que, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, on prépare tout ça. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Parce que, est-ce que les gens voudront nous parler, alors qu'ils ont beaucoup d'autres choses en tête en ce moment, et puis après, de retour à Brest, on a discuté vraiment avec tous les membres de l'association, et on a vu plein de gens qui disaient non mais moi je suis toujours là, et les projets qui devaient venir à bord pareil, alors que il y en avait qui s'étaient retrouvés avec moins de travail pour des pigistes ou pour autres, enfin, et ou avec des changements de situation, ils se sont tous dit bah nous on répond présent. Et donc, on s'est dit, bah, il faut y aller, ça c'est plutôt chouette. Et en fait, tous les gens qu'on a rencontrés, enfin pas tous, mais la plupart des gens qu'on a rencontrés, on avait l'impression que ça leur faisait vraiment du bien de parler d'autres choses et de parler aussi. Et juste que quelqu'un écoute aussi, trouve ça important ce qu'ils aient à dire, de transmettre leurs observations. Donc c'était assez fort en fait, et ça a créé beaucoup de liens. Donc ça fait du bien, ça a donné de l'espoir et faire se sentir un peu mieux face à tout ça.
Des gens, j'imagine que vous en avez rencontré, qu'il y a dû y avoir quelques histoires. Est-ce que tu te souviens d'un moment ou d'une anecdote qui t'a particulièrement marqué ?
Alors on a fait 82 interviews sur l'année, enfin sur les 5 mois, donc c'était pas mal d'interviews. Et il y a plein d'anecdotes, c'était... Une des choses qui m'a vraiment marquée, c'est qu'il y avait plein de gens qui se connaissaient. Enfin, que c'est petit, en fait, la Bretagne. Que d'un port à l'autre, on rencontrait telle personne qui disait « Ah oui, mais moi, nanana, ah, mais c'est trop drôle que vous ayez interviewé, nanana. On a bossé ensemble il y a 40 ans. » Enfin, il y avait plein d'aspects comme ça où ouais, on a trouvé ça rigolo. On a découvert la godille. Enfin, la pratique de la godille, donc utiliser un aviron à l'arrière du bateau et avec des mouvements de 8, faire avancer le bateau au lieu de ramer. Et à Groix, il y a le championnat, enfin le non-championnat du monde de la godille. À Trébordin, il y a quelqu'un qui a traversé l'Atlantique à la godille.
D'accord.
Au port de Paimpol, il y a le lycée qui apprend à godiller. Et enfin, c'est quelque chose qui est revenu tout du long. Ça nous a trouvé assez drôle. Et enfin, on a trouvé ça assez drôle. Et en même temps, vraiment chouette, parce que c'était plein de personnes qui sont aussi là en train d'utiliser une technique ancestrale. Et de nous montrer qu'ils sont en train de développer des pales qui sont en fait très très performantes. Ils font des vitesses dont on pourrait être jaloux quand il n'y a pas de vent sur notre voilier. Enfin, donc c'est vraiment impressionnant. Et on se disait que ce serait chouette de promouvoir plus la godille, des pratiques qui sont vraiment respectueuses de l'environnement et qui, grâce à des technologies modernes comme le carbone, la fibre de verre et un meilleur design, en fait, deviennent très performants. Ça, c'était une... Mais il y en avait tellement. C'est compliqué d'en trouver une comme ça.
J'imagine que c'est ça doit être plein de rencontres. Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a été plus compliqué ? Avec des personnes ou un moment où, pas forcément où tu t'es dit on n'aurait pas dû faire ça, mais voilà, un moment qui a été plus compliqué.
Y a beaucoup de moments, il y a plein de choses qu'on est en train de revoir cette année, parce que c'était la première année où on faisait ça, où c'est beaucoup de rencontres, nos journées type, on nous demande toujours ce que c'est un peu, et c'est beaucoup, je discutais avec des gens. Après faire des enregistrements, on a énormément de travail, donc c'est pas juste papoter toute la journée, mais il y a énormément de discussions, et c'est absolument épuisant en fait. Et donc ça a été quelque chose difficile à se rendre compte, et surtout que ça crée une difficulté de voir quand est-ce que le travail s'arrête et que c'est le perso qui reprend ou pas. Et donc, je pense qu'il y a eu une grande fatigue, il y a eu des difficultés à s'arrêter, enfin, à dire ok, là on va prendre une demi-journée, tout le monde a besoin de repos, et on va juste pas parler de l'océan, de ce qu'on voit, de l'environnement, on va juste faire autre chose, on va se promener et se baigner, enfin, ou quelque chose d'autre. C'était ouais, beaucoup ça dans la gestion de la fatigue, parce que même si c'était une expédition très confortable où on reste en tongs, en chaussons, à discuter avec les gens, à boire du thé, à être tranquille, c'était une vraie aventure humaine assez assez puissante, oui, et beaucoup d'émotions aussi lors des interviews et lors de beaucoup de rencontres. Donc ça aussi, ça avait été assez assez fort. Ah si, en anecdote, on a eu un moniteur de voile quand même qui lui disait à Paimpol, il disait que il était très engagé dans l'environnement quand il était plus jeune, très militant, parce que la Mococadis, elle avait marqué, et ensuite quand il y a eu l'Erika, il était un peu plus âgé. Et lui, même si dans sa pratique quotidienne de la voile, avec ses stagiaires, il essaie de vraiment promouvoir l'environnement et essayer de leur faire se rendre compte de l'impact des choses. Et en plus, c'est un ancien militaire, donc il est un peu abrupt dans ses façons de faire. Donc c'était quand même assez drôle quand il nous racontait tout ça. Il avait fait partie du groupe qui avait été sur les plages, qui avait été souillé par l'Erika, ramassé plein de gros bouts de pétrole, et pour les mettre tous dans leur camion et les déverser sur la maison du patron de Total France.
D'accord.
Et que c'était la première fois qu'il osait en parler, parce que c'était bon, c'était passé. Il y avait prescription maintenant.
D'accord.
Et qu'il
okay.
fallait que ce genre d'action, on s'en souvienne, et que c'était, si c'était à refaire, il le referait pas, parce que c'était pas forcément très intelligent, mais qu'il avait une telle satisfaction à voir que ceux qui avaient créé le problème, finalement, l'aient chez eux et patoche dans le pétrole. Enfin bref. C'était ce genre d'anecdote aussi qui était assez forte, et de voir qu'en fait, il y a des personnes on soupçonne pas, mais qui font beaucoup de choses. Et ça aussi, ça faisait vraiment du bien au moral. Même si, bon, après, on peut être d'accord ou pas, mais c'est pas légal du tout. Mais,
non, on le rappelle.
Voilà.
Tu parlais d'enregistrement sur votre site ou sur les plateformes de streaming habituelles. On peut découvrir 23 podcasts d'une durée approximative moyenne de 15 minutes et que vous avez réalisés durant toute l'année 2020. Comment vous les avez construits, ces épisodes?
Le premier confinement nous a beaucoup servi, parce qu'on savait que l'audio et le podcast, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment explorer, parce que c'est assez puissant d'entendre les voix des personnes, on entend les émotions, on entend le rythme, les mots, les hésitations, c'était vraiment un format qui nous plaisait pour transmettre cette émotion et le témoignage. Et du coup, il fallait qu'on apprenne un peu plus sur comment bien le gérer, parce qu'on n'était pas forcément tous monteurs à l'origine. Donc il fallait apprendre à bien gérer ça et apprendre à monter un podcast. Et après, il a pas mal évolué pendant l'année, parce que on a appris des nouvelles choses. On a un peu peut-être trouvé notre identité aussi, essayé de s'améliorer. Et dans l'idée, c'est vraiment du témoignage. On essaie d'avoir des profils très différents. Donc, on sélectionne les personnes qui passent en podcast vraiment juste parce que c'est des profils différents des autres. Parfois, surtout au début, pour des soucis techniques, parce qu'on a eu quelques cagades avec les micros où ça n'a pas très bien enregistré, des choses comme ça. Vers la fin, ça, c'était bon, on était rodés. Mais du coup, c'était essayer de faire une variété de profils, essayer de parler de thématiques un peu différentes aussi, d'aborder plein de choses différentes, pour que à chaque fois, on puisse explorer, qu'on puisse voir des personnes, qu'elles soient très militantes ou au contraire entrepreneuses ou juste observateurs du milieu qui change au quotidien, et de transmettre ça. Et on essayait de rester le plus fidèle par rapport aux personnalités des personnes rencontrées. En moyenne, les enregistrements d'interviews duraient plus d'une heure, donc les faire passer en 15 minutes, c'était un défi. Et en même temps, c'était vraiment intéressant d'essayer de trouver l'essence. Donc on espère que les personnes, en tout cas, qui sont passées en podcast, ont bien aimé le travail.
je pense. Et puis dans une semaine, ça y est, c'est reparti pour un tour avec les mots bleus. Donc c'est une expédition dont tu es en charge en tant que coordinatrice scientifique. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de cette nouvelle expédition, cette nouvelle aventure ?
Eh ben finalement, le local nous a plu, donc là on va rester sur la façade atlantique française, finalement. Donc on va aller de Hendaye à Lorient. On va lancer l'expédition depuis Hendaye le 8 juin pour la Journée mondiale de l'océan.
Hendaye, pour les personnes qui ne savent pas.
Ah, c'est à la frontière espagnole. C'est vraiment collé. Il y a juste une rivière qui sépare de l'Espagne. Donc dans les Pyrénées, enfin françaises du coup, mais tout juste. C'est tout au sud, sur l'Atlantique. Et on va aller jusqu'à Lorient, où là, normalement, tout le monde ici devrait connaître. Et où on sera au Festival des Aventuriers de la Mer pour clore l'expédition. Et il devrait y avoir une quinzaine d'escales. Une grosse distinction avec cette côte-là, c'est que surtout ce qui était anciennement l'Aquitaine, c'est une côte où il y a très peu de ports, il y a très peu d'abris. Elle fait face au golfe de Gascogne, qui est réputé pour être un peu coriace. Et donc, c'est, je pense, une autre approche par rapport, surtout par rapport à la Bretagne, où on pouvait faire plein de tout petits sauts de puce et plein d'escales dans plein de des petites villes, des grandes villes, des moyennes villes. Enfin, on pouvait vraiment voir plein d'endroits différents. Là, ce sera moins le cas parce qu'on va aller que là où il y a des ports. Donc, ce sera une chose qui va être différente. Et puis, on va accueillir à bord des projets aussi, toujours faire ce travail de collecte de témoignages et toujours être dans un peu l'expérimentation sur comment créer du contenu de sensibilisation qui puisse vraiment toucher le public, essayer d'être le plus réceptif possible aussi à qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a pas plu, pourquoi, quels sont les contenus qu'on peut creuser un peu plus, est-ce que l'infographie c'est quelque chose qui marchait bien, est-ce que la BD c'est pas plus fort, quelle population préfère quoi, dans quel format, est-ce que un se prête mieux pour les réseaux sociaux, l'autre plus pour des stands, enfin. Donc c'est explorer un peu tout ça, essayer aussi des nouveaux formats, parce que ça dépend de la créativité des gens à bord, mais on essaie d'encourager à être toujours très libre dans la forme, et tout en essayant d'être rigoureux vraiment sur le fond. Mais la forme, c'est vraiment pas... Ça, on sait pas ce que ça va faire. C'est comme les personnes qu'on interviewe, on les connaît pas à l'avance. On fait beaucoup de remontées directement du terrain, donc c'est en fonction de ce qu'on nous dit sur place, beaucoup. Ce qui a donné des choses, je pense, bien plus intéressantes l'année dernière que si on avait tout préparé scrupuleusement pendant des mois avant le départ.
Et du coup, en fait, comment ça va se passer ? Vous partez de Brest à Hendaye en bateau
Oui, on va convoyer le bateau avec des membres de l'association, mais qui sont vraiment une équipe plus de navigation, parce que c'est le golfe de Gascogne à traverser quand même. Et donc ça devrait prendre 3 ou 4 jours à peu près, donc sans escale, si tout va bien. Et puis après, arriver à Hendaye, ça va être changement d'équipe. Et là, on va être plutôt sur la production. Donc, c'est les premiers projets qui vont venir à bord. L'aspect vraiment témoignage, production. Et puis après, sur quelques grosses navigations, on a des personnes qui viennent pour la navigation, pour faire des grosses étapes, pour pas infliger à des personnes qui sont juste venues pour créer du contenu, faire des navigations de 48 heures dans une mer formée. Et à pas être à l'aise là-dessus.
Je te propose qu'on continue l'interview après donc Woods et son titre Next to You and the Sea. Vous êtes toujours sur Radio 101.fm. C'était Next to You and the Sea de l'artiste Woods. Et donc, on est toujours avec Louise Rasse, coordinatrice scientifique de Sailing Hirondelle. Alors, pour les personnes qui reprennent en cours de route, je rappelle, il y a une nouvelle expédition qui s'appelle Les Mots Bleus que vous allez entreprendre dans une semaine. La goélette, elle fait 12 mètres. Combien de personnes peuvent monter à bord?
Alors nous, on est au maximum 5, enfin, sauf 6 lors de convoyage ou de navigation, mais parce qu'on est un peu en système de bannette chaude, donc on peut être plus. Ce qui est relativement peu par rapport à la taille, mais ce qui fait qu'on a beaucoup de place pour travailler justement, et pour pas se marcher dessus, pour accepter d'être 3 semaines avec des personnes dans une ambiance de travail, d'avoir du temps, de pouvoir gérer le bateau, de pouvoir... Faire venir des personnes pour les interviewer à bord ou d'utiliser le bateau comme un espace de travail.
Voilà. Et donc, comment vous choisissez les personnes qui montent? Vous faites une espèce de Koh-Lanta avec des épreuves?
Là, cette année, on a lancé un appel à projet qui est encore ouvert. Et on a été un peu submergé par des propositions de projet, ce qui est vraiment chouette. Et puis après, c'est un mélange de tout, parce que les places sont limitées à bord, donc on peut pas prendre tout le monde, même si parfois on aimerait bien. On peut pas non plus... Vu que nous, dans l'essence de l'association, on a voulu délibérément parler de tous les sujets. On n'est pas spécialiste du plastique ou de tel impact ou de telle cause. On est vraiment sur plein de sujets différents pour essayer de montrer qu'il y a une multitude de problématiques, qu'il y a une multitude d'interactions quotidiennes ou ponctuelles de chaque personne avec l'océan et des multitudes de façons de l'améliorer, d'avoir une relation qui peut peut-être évoluer. Enfin voilà. Donc, si on a 20 personnes qui disent « moi, je veux travailler sur la pêche » et qu'il y en a 3 qui disent « moi, je veux travailler sur... je sais pas, 3 choses différentes », forcément, ceux qui disent qu'ils veulent être sur la pêche, ils auront moins de chances de venir à bord. Et puis après, c'est aussi sur l'originalité du format. C'est essayer de voir un peu s'il n'y a pas des choses qui changent un peu de l'ordinaire, qui... Justement, une démarche un peu expérimentale. L'année dernière, on a eu un écrivain qui a fait une nouvelle de fiction, qui était une fiction vampirique avec des sirènes vampires qui subissaient les impacts des activités humaines en mer. Et c'est très étrange, ça sort de l'ordinaire. Et d'un autre côté, on trouvait ça vraiment formidable de voir entrer des problématiques environnementales dans la fiction vampirique. Enfin, c'est un monde qui parle pas forcément d'environnement, ou c'est très rare. Et là, justement, on peut aller explorer des formats un peu différents, voir un peu ce que ça fait, créer des collaborations aussi, parce que là, il y avait un dessinateur dans l'association à qui ça a parlé, qui s'est dit, moi, je vais faire les illustrations pour illustrer cette nouvelle. Et du coup, ça crée des synergies, des choses. Donc, ouais, c'est un peu, est-ce que ça sort des chemins battus? Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à quelque chose qui nous plaît? Après, on essaye toujours d'être dans la transmission de témoignages et de regards, et donc sans juger, parce que c'est la perception des personnes qui vivent le littoral. Et donc c'est aussi essayer d'avoir une approche qui n'est pas stigmatisante, qui n'est pas accusatrice, parce que parfois les personnes observent des choses, veulent changer, ne savent pas comment faire, ou ont essayé de faire, n'ont pas réussi, ont l'impression de manquer de agency, enfin de capacité d'action. Et donc c'est aussi en écoutant, en discutant avec ces personnes sans les stigmatiser qu'on réussit à créer du dialogue et de montrer que et de faire des liens. Ça a été c'est un peu tout ça. Donc les projets, ce sera voilà, un peu de tout ça. Et puis après, il faut que la personne sache ce qu'elle fait aussi, parce que si quelqu'un nous dit tiens, moi j'ai toujours rêvé de dessiner, est-ce que je peux venir à bord dessiner alors que j'ai jamais tenu un stylo dans mes mains, je suis pas sûre que la qualité soit au rendez-vous pour le public. Et donc pour les personnes qui voudraient s'investir autrement, on leur propose plutôt de s'investir dans l'océan, dans l'association, par plein d'autres moyens. Mais on n'est pas obligé de proposer un projet pour nous rejoindre, hein. On peut totalement s'engager si on n'a pas des compétences en création de contenu de sensibilisation.
Et est-ce que vous avez déjà imaginé prendre un bateau plus grand pour accueillir plus de personnes?
Oui. Oui, forcément. Alors après, un bateau plus grand, c'est aussi des frais qui sont décuplés. Et puis, ben, l'association a que 2 ans. On est quand même tout jeune sur le paysage associatif, même au niveau local. Et donc, pour le moment, on n'a pas les moyens nécessaires pour ça, mais ça, oui, on a vu des très très jolis bateaux à Douarnenez qui sont en train de tranquillement, on a l'impression, mourir dans le port de Douarnenez, qui pourrait être d'une bonne taille pour soutenir des projets assez chouettes, mais oui, et pas que à Douarnenez d'ailleurs, mais oui, non, on y pense en rigolant pour le moment, et peut-être qu'un jour on y pensera sérieusement.
Alors, ce que nous disaient José Sarrazin et Marjolaine Matabos, donc ces deux chercheuses à Ifremer, elles nous disaient « On n'en sait plus sur notre galaxie que sur les océans ». Est-ce que toi, Louise, tu signais dans un billet sur Mediapart en 2019 ? C'est, je cite, « Comment s'attendre à ce que l'on fasse l'effort, à ce que l'on change nos pratiques pour protéger quelque chose que nous ne comprenons pas ?» dont le lien avec notre vie semble aussi distant. En tout cas, vous, y a un consensus sur notre manque de connaissance de l'océan qui recouvre environ 70% de la planète. Pour toi, à quoi il est dû ce manque de connaissance ?
Bon, j'imagine que c'est lié à beaucoup de choses. Il y a des chercheurs qui vont dire que c'est aussi une capacité technique à y aller. Il peut y avoir l'aspect aussi très... dans l'imaginaire collectif, on se dit que l'océan, c'est quelque chose d'assez immuable, sur lequel on ne peut pas avoir d'emprise. Quand on parle d'océan, ça évoque la liberté, l'illimité, la puissance, quelque chose d'inarrêtable, d'immuable, la continuité dans le temps, l'infini, ça évoque tellement de choses. Et du coup, rien que quand on l'imagine, on s'imagine, c'était des climato-sceptiques qui disaient il faudrait être sacrément prétentieux pour s'imaginer que nous, pauvres êtres humains, on pourrait changer le fonctionnement de la Terre. Et quelque part, ils ont pas tort, ils ont tort scientifiquement, mais ils ont pas tort dans notre imaginaire. Enfin, c'est difficile à concevoir que nous, on peut avoir des impacts. Que quelque chose de tellement grand aussi, on a l'impression que quand on va sur la surface déjà, on a l'impression de bien connaître quand on navigue, et même les marins qui ont fait 17 tours du monde, en fait ils ont vu juste un tout petit mini pourcentage de la surface de la mer, c'est très peu, c'est trop grand, c'est difficile à imaginer, c'est profond, en plus c'est en 3D, donc c'est profond, faut pouvoir y aller, en plus c'est que assez récemment qu'on a pu y aller, nous humains, donc je pense, tellement de choses comme ça qui font que entre capacité technique, volonté d'y aller, contrainte, peur et imagination, que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'étudier parce qu'il va assez bien par rapport aux autres choses, on s'imagine, je sais pas, je me dis que c'est peut-être lié à tout ça, même si après je suis pas spécialiste de cette question là.
Et justement, toi, tu es coordinatrice scientifique. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors là, ça va être beaucoup faire le lien entre à la fois les chercheurs dans l'association, entre les thématiques et beaucoup la coordination des projets en fait qui sont à bord. Donc, comment au mieux faciliter leur création, faciliter à la fois la mise en place pour qu'ils puissent venir à bord, pour les mettre en relation avec des personnes qui vont pouvoir les aiguiller dans leur démarche, pour pouvoir aller chercher de l'information, on va dire scientifique, fiable, sûr ou pertinente, et même interroger la pertinence du projet en question. Donc tout ça, et puis beaucoup d'organisation, de faire le lien entre toutes les différentes parties, essayer au maximum, et après d'aiguiller, recommandant je compile des bibliographies, des trucs que je demande. Ah, vous n'avez pas quelque chose à m'envoyer qui pourrait intéresser des projets ou sur telle thématique. Et puis je compile un peu de biblio pour essayer de les emmener vers d'autres choses. Donc c'est un mélange de tout ça.
Est-ce que tu as une thématique un peu plus précise que tu préfères ?
Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est question sur les perceptions. Et puis après aussi sur pourquoi on agit, pourquoi on n'agit pas, sur ce qui nous pousse à faire des choses, les sciences du comportement, ou sur mélanger. J'aime bien que ce soit justement interdisciplinaire et aller chercher ces différentes choses, de faire le lien entre plein de choses différentes. Mais là-dessus, c'est des thématiques que je connais pas, que je maîtrise pas, que je m'enthousiasme à aller lire et découvrir, et que je trouve passionnantes et peut-être sous-regardées. et surtout que je trouve très très puissante, parce que c'est des choses sur Arte, il y a eu toute une série de reportages avec c'est La Fabrique de l'ignorance et ce genre de grands documentaires qui parlent aussi de toute la recherche faite en sciences cognitives qui a servi pendant longtemps et qui sert toujours des grands groupes industriels ou le lobby du tabac et des choses comme ça, qui ont mis un argent incroyable, des financements incroyables pour mieux comprendre comment on réfléchit et comment convaincre et comment parler à quelqu'un pour qu'il change son comportement sans même qu'il s'en rende compte. Et donc comment on sensibilise aussi quelque part. Et dans d'autres thématiques, quand c'est des thématiques, on va dire, plus nobles, et qu'on est dans le plaidoyer, plus le lobby, et qu'on est sur de l'environnemental ou du social, on se dit, c'est inné, on va dire aux gens que c'est important de protéger, on va donner des chiffres, expliquer pourquoi, ils vont forcément le faire. Et je me dis, bon, c'est dommage enfin, qu'on n'ait pas les ressources qu'ont d'autres grands groupes pour aller justement travailler ces enjeux-là, et d'accompagner à travers aussi une meilleure compréhension de comment communiquer ces sujets pour que ça percute, parce que bah, c'est urgent, c'est un des grands enjeux du siècle à venir, enfin, et du siècle en cours. C'est un grand enjeu pour toutes nos générations, et aussi les générations plus jeunes qui sont en train de naître, ou qui sont à l'école primaire encore aujourd'hui. Et donc, oui, comment convaincre toute la société, chaque corps de la société à travers tout ça. Donc moi, ouais, j'aime bien ces thématiques-là.
En parlant de société, justement, donc il y a eu un truc, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle le coronavirus. Et en fait, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de personnes qui disaient que qu'on allait voir une différence par rapport donc à la relation entre l'humain et son environnement. Est-ce que au niveau des océans, on a vu une différence, et au niveau du milieu marin en règle générale?
Oui, bah pendant les confinements, oui. Après, il y a encore des résultats d'études, donc là, pour le coup, scientifiques, qui ont profité du confinement pour aller faire des mesures, des choses comme ça, qui sont encore en train de sortir, il me semble. Mais nous, ce qu'on a vu avec juste le témoignage des gens de la mer, c'était que oui, il y a eu... c'était plus calme, c'était moins bruyant déjà, et le bruit, enfin moi ça a été quelque chose qui m'a profondément marqué pendant ce confinement, c'était le bruit que notre société fait, que ce soit sur l'eau ou à terre, enfin, mais on est très très bruyant comme espèce, et c'est incroyable, enfin, de faire autant de boucans, et ça même des pêcheurs, ils disaient la même chose, que ça a été vraiment, ils ont vu plus de poissons, plus d'animaux sur Eddy, qui disait qu'ils avaient des araignées sur la plage à marée basse, ils ont même pas eu à plonger pour aller chercher des araignées, parce que c'était comme avant, et quand ils en ont parlé aux anciens de l'île, ils leur disaient oui mais moi quand j'étais enfant c'était toujours comme ça, en fait c'est récent qu'il faut plonger à 3 mètres pour aller choper des araignées, enfin c'est pas quelque chose, enfin ça, c'est une évolution, et du coup ils avaient l'impression de revenir un peu à ce qu'il y avait avant. Sur Groix aussi ça a été on leur dit, mais est-ce que vous avez vu une différence avec la relation à l'environnement après le confinement? Parce qu'on a tous constaté que peut-être on voyait plus les animaux, que ce soit parce que nous on sortait plus, qu'on était plus attentifs, ou parce qu'ils étaient réellement plus nombreux, peut-être venaient plus proches de nous parce qu'on était moins bruyants, on les effrayait moins, ce genre de choses. Mais est-ce que vous avez senti un après? Ils ont dit, ah bah oui. Et là, enfin, il y a une interview, un podcast que je vous invite à écouter. C'était les gréeurs d'arbres à Groix, donc qui ont un parc de jeux. Enfin, bref, et c'est deux punks qui sont juste incroyables. Et quand je leur ai demandé, alors, ça a fait quoi le déconfinement? Leur réponse était... Ils se mettent à chanter en mode rock sur des bruits de bateaux. Ils disent non, mais en fait, c'était les zodiacs, quoi. Que c'était, en fait, sinon, bon, ça allait, mais d'un coup, on a commencé à entendre du bruit. Et on savait que c'était le retour de l'activité, la reprise des avions dans le ciel, et tout qui recommence. Donc, je sais pas. Et je sais pas si ça va laisser une trace, ça.
Parce que le bruit qu'on fait, il a un impact sur l'océan et sur sa faune?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a plein d'animaux qui utilisent le bruit, les cétacés, on en parle beaucoup. Et donc, pour eux, c'est très important, et ça peut déstabiliser, ça peut... C'est un repère sur notre environnement, et pour beaucoup d'animaux, c'est la même chose. Et donc, ça peut avoir des grands impacts. Et puis après, c'est aussi lié à plein de choses. Par exemple, nous, on dit, on perçoit du bruit parce qu'il y a un moteur qui va faire du bruit, ou le Zodiac qui tape contre la mer. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très bruyant pour les cétacés. C'est vraiment compliqué de gérer ces bruits-là. En plus, qui sont des très forts claquements qu'ils entendent beaucoup. Et quand on en écoute des enregistrements en hydrophone, c'est incroyable. Enfin, on n'en revient pas. On se dit, ouais, les pauvres, quand même. Et c'est aussi, ça va créer des vagues, donc ça va pousser l'érosion. Enfin, il y a tout un tas de séries d'événements. À chaque fois, c'est des interactions assez complexes. Et donc, c'est là où il faut des chercheurs pour en parler mieux, parce que ça nous dépasse carrément quand on n'est pas directement impliqué dans l'analyse de tout ça.
Louise Rasse, merci d'être venue ce soir.
Mais merci à vous.
Avec grand plaisir. Et donc, je rappelle qu'on va pouvoir suivre votre nouvelle expédition Les Mots Bleus sur vos réseaux ainsi que sur votre site Sailing Hirondelle. Et donc, C'est vous qui le dites revient avec l'interview de Tiffaine Siré et de la Redadec tout de suite après Plastic Wrap de Soy Donor. et vous êtes toujours sur Radio U 101.fm et vous écoutez C'est vous qui le dites et on a entendu donc Plastic Wrap de Joy Donner. Thomas a pu interviewer Tiffaine Siré, la chargée de communication de la REDADEC, plutôt cet après-midi et on l'écoute tout de suite.
Et maintenant, on retrouve Tiffaine Siré. Bonjour Tiffaine.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication et de développement pour la REDADEC. Et donc aujourd'hui, vous nous emmenez faire le tour de la Bretagne en courant. Alors pour rappel, la REDADEC, ça se passe du 21, donc demain, au 29 mai. Et le départ se fait de Carré et l'arrivée à Guingamp. Le but est simple, valoriser et mettre en avant la langue bretonne. Et pour cela, votre course est découpée par kilomètres. Et chacun de ces kilomètres sont vendus et donc courus séparément. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Tiffaine, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'où vous est venue cette idée et depuis quand ça existe, la REDADEC ?
Alors la REDADEC, comme son nom l'indique en breton, ça veut dire la course. Et c'est un projet à la base qui date de 2008, qui a été mis en place par des parents d'élèves du réseau D1, donc du réseau des écoles immersives, pour fêter les 30 ans du réseau. Et l'inspiration de cette course-là, qui est donc en fait en soi un relais, donc c'est plus un relais un peu comme on se considère un peu comme le téléthon de la langue bretonne, dans le sens où on fait un relais tous les kilomètres, jour et nuit, sans interruption, en théorie quand il n'y a pas la Covid. Et donc, comme vous disiez, les kilomètres sont financés par des particuliers, des associations, des collectivités territoriales ou des entreprises. Et ensuite, l'argent est redistribué à D1, donc pour le réseau, et en partie aussi pour autre moitié à des projets en langue bretonne. Et donc l'inspiration vient notamment d'une course qui s'appelle la Corrica au Pays Basque, qui elle date d'il y a plus de 40 ans, et donc qui a lieu aussi tous les deux ans, nous sur les années paires en théorie et eux sur les années impaires. Et donc ils font ça au Pays Basque nord et sud, hein, bien sûr, sur tout le Pays Basque depuis un bon moment maintenant. Et c'est d'ailleurs pas la seule course qui existe depuis la Corrica et la REDADEC. Il y a eu une course donc de mémoire en Irlande. Il y en a une aussi en Galice, une dans le pays catalan. Et en France, depuis peu, il y a le Béarn, depuis 2018. Et bientôt, il y a une course prévue en Alsace. Il y a une course aussi prévue cette année, je pense, si tout va bien, en Corse. Et j'ai entendu parler de projets du côté de Jersey aussi, notamment pour la langue normande. Donc ça vient du Pays Basque et puis ça se déploie au fur et à mesure un peu partout.
D'accord. Et donc, comme vous venez de le dire au début, au total, vous allez collecter 130 000 euros. Et donc, vous avez choisi particulièrement de reverser la moitié aux écoles D1. Et donc, pourquoi ce choix ?
Alors, c'est dans les statuts depuis le départ, c'est-à-dire que l'objectif à la base, c'était l'aide au maintien du réseau. Et comme les premiers bénévoles et la première création de la course, ce sont les parents en fait du réseau D1, eh bien, la moitié de l'argent collecté revient au réseau. Alors, pour la somme, 130 000, c'est ce qu'on a habituellement là pour cette année, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, donc à savoir le délai donc d'un an, le report d'un an et la vente des kilomètres qui n'est pas optimale à cause de la période, on n'y sera peut-être pas. Donc pour le moment, ça avance pas trop sur les chiffres. On sait qu'on pourra redonner, peut-être pas autant que ce qu'on aurait voulu, de par le fait que les kilomètres seront sûrement pas tous vendus. Et donc, pour autant, la moitié de la somme ira toujours à D1 pour les raisons évoquées. Et donc, l'autre partie, ce sont des projets. Et ce n'est pas des projets que nous, on choisit. On fait un appel à projets et ensuite, on accueille les différents porteurs de projets. Et c'est un conseil de sages qui décide à qui on attribue la somme restante. Ce sont des gens extérieurs à la REDADEC, mais qui sont importants ou pas d'ailleurs dans le milieu britophone, et qui donnent leur avis. Donc il y a de tout, il y a des étudiants, des écrivains, des britophones de naissance ou pas. Et le principe, c'est qu'eux puissent juger de la pertinence des projets par rapport à leur propre pratique. Et comme ça, tous les deux ans, on renouvelle une partie du conseil.
D'accord. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas que les écoles D1, il y a aussi d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors effectivement, il y a plusieurs projets qui sont soutenus et qui changent bien sûr tous les ans. Alors là, pour cette année, Par exemple, il y a un projet qui était sur deux éditions, qui est la radio Radio Kernet à Nantes, donc Radio Naonet, pour le soutien à ce à la mise en place de cette radio. Ensuite, ROC, qui est donc la fédération, une des fédérations du Crèze-Braise pour l'aide à la communication en breton pour les festivals, pour le monde touristique ou sportif. Bonoué, parce que ils ont remonté un spectacle qui s'appelle Armardal, donc le cheval aveugle, qui date de 79. Et donc là, il y a une nouvelle configuration avec orchestre symphonique qui est prévue. Donc ça permet le soutien effectivement au spectacle vivant. Radio Crèze-Braise aussi pour la mise en avant de près de 600 émissions qu'ils avaient fait, qui s'appelle Guerriou Arvué, donc les mots de la vie, et qui vont être mis plus en avant sur Radio Crèze-Braise. Arborescence aussi pour la diversité des usages et des noms de plantes en breton. Mignonnet Arbrezonec pour leur site en réseau qui s'appelle stal.bzh, qui permet de recenser tous les commerces dans lesquels on peut parler breton. Et puis aussi Thierbro l'an dernier pour le centre de loisirs en breton du mercredi. Morzel Prod, donc c'est pour la création audiovisuelle en breton, donc des films en fait, le court-métrage. Et donc comme je vous disais après, l'autre partie pour le réseau du monde.
D'accord. J'ai pu lire sur votre site que la longueur du parcours, elle est de 2020 km. Ça nous rappelle un peu l'édition de l'année dernière qui fut annulée pour des raisons de Covid. Quelles sont les conséquences de l'annulation de l'édition de l'année dernière?
Alors, c'est plus un report qu'une annulation, parce que finalement, c'est le même parcours. On a tout gardé, c'est juste qu'effectivement, on a tout décalé d'un an. Il y a eu plusieurs conséquences. Déjà, comme on n'a pas pu soutenir certains projets, eh bien, il y en a un que j'ai pas cité, qui était Baby Goubrez. Ce qu'ils avaient fait n'a pas pu avoir lieu, par exemple. Donc, ça a mis à mal un petit peu l'organisation de leur événement. Pour d'autres, c'est un report de projet, puisqu'ils n'ont pas pu le faire cette année. Pour nous, il n'y a pas eu tant que ça de conséquences en interne. C'est plus après sur toute l'organisation, sur le lien avec les collectivités, puisqu'effectivement, les mairies sont un peu plus frileuses aussi à donner l'arrêté pour le passage, parce qu'effectivement, les conditions sanitaires sont complexes. Le lien avec les préfectures, effectivement, pour l'autorisation est assez complexe aussi, parce que là, on a de la chance, on est le 20, mais jusqu'à hier, les protocoles n'étaient pas forcément extrêmement sûrs de la part du gouvernement, et donc les préfectures n'avaient pas forcément de réponse à nous apporter. Donc là, ça commence à décanter depuis aujourd'hui, simplement, alors que la course commence demain. Donc c'est ce qui est complexe, c'est plutôt ça, et la mobilisation aussi. Forcément, l'achat des kilomètres a stagné pendant un an, ce qui est bien normal, parce que les gens avaient du mal à se projeter. Et là, on essaie de relancer la machine jusqu'au bout. Donc ça va le faire, c'est juste effectivement un peu plus dur de mobiliser même des bénévoles qui sont pas forcément là, qui étaient disponibles l'année dernière, mais qui ne le sont pas forcément cette année. Donc ça a des conséquences sur des niveaux différents.
D'accord. Comme vous l'avez dit avant, on peut voir sur votre site internet aussi que qui achète quel kilomètre. Et donc, vous l'avez dit, il y a des particuliers, des associations, des entreprises. Est-ce que vous avez une idée de la répartition entre ces différents acteurs?
Alors, pour cette année, ça va être compliqué de le dire parce qu'on est encore en cours d'achat. Et puis après, ça dépend si on parle en termes du nombre de contributeurs ou du prix, parce qu'on a fait évoluer notre gamme de prix là depuis 2018. Et ce qui fait que, par exemple, les entreprises vont payer plus cher que les particuliers. Donc, on pourrait dire qu'en termes de chiffre d'affaires, peut-être que les entreprises et les collectivités auront un impact un peu plus fort. Mais par contre, en termes de nombre de contributeurs, c'est essentiellement les particuliers et les associations.
Le slogan de cette édition, c'est « Dost à Mignon », je crois. Si je suis pas bretonnant, mais je sais pas quand... Je pense que ça se dit comme ça. Alors, ça veut dire « Ramène ton pote ». Est-ce que ça traduit une envie de faire de cette édition un événement plus festif et local?
Alors, ça, c'est surtout dans l'idée que on a un thème chaque année pour essayer de mettre en avant plusieurs choses. Souvent, le thème est lié aussi, parce que ça, on l'a pas précisé, mais je vais le dire là, que dans le bâton témoin que les gens se transmettent normalement, qui ne sera pas là pour le Covid, parce qu'on va pas se transmettre le Covid quand même en plus du bâton témoin, mais dedans, normalement, il y a un message. Et ce message est écrit par, souvent, une personne du monde culturel breton, en breton et en lien avec le thème. Et donc ça, ce message-là est lu, il est mis en fait dans le témoin au départ, il est lu à l'arrivée. et de Staminion, donc c'est presque comme vous l'avez prononcé, c'est l'idée que les gens qui connaissent la Redadeg sont souvent toujours les mêmes, et on est très fiers de notre base militante, mais on aimerait bien aller au-delà du monde britophone. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la Redadeg un élément festif, certes, et culturel, mais qui est ouvert à tous, parce que la Redadeg est ouverte à tous, même à ceux qui parlent pas breton, et heureusement. Et l'idée, c'était que chaque personne qui connaisse la Redadeg puisse venir avec quelqu'un qui ne la connaît pas. Ce qui fait que de passer de 10 000 participants, on passait à 20 000, parce que chacun ramenait une personne qui ne connaissait pas. Bon, là, c'est plus compliqué, effectivement, avec la question de la pandémie et des règles sanitaires, mais dans l'esprit, c'est toujours ça.
La défense de la richesse et de la diversité de la langue bretonne pour la Redadeg, c'est donc, vous l'aurez compris, un engagement financier, mais est-ce que c'est pas aussi un peu politique avec l'inclusion de Nantes, Naoned, pour les intimes?
En fait, on s'est pas posé la question. La Redadeg, qui est une organisation apolitique, et la seule chose qu'on s'est dit, c'est que des écoles d'Iwan, il y en avait jusqu'à Nantes, et que donc, naturellement, quand on crée, nous, le parcours, on s'appuie sur les communes qui ont des classes soit bilingues, privées, publiques, ou d'Iwan, donc immersives, et il s'avère qu'il y a aussi des associations culturelles de langue bretonne sur le pays de la Loire-Atlantique, donc sur le pays de Nantes et de Saint-Herblain, notamment, et donc, pour nous, c'était normal de à chaque fois créer une course qui aille jusque là, puisque la région Bretagne finance quand même pas mal de projets en langue bretonne, en Loire-Atlantique aussi, même si c'est pas la même circonscription administrative. Donc au-delà de la politique, en fait, c'est surtout la reconnaissance de la pratique linguistique sur d'autres territoires, même si on n'est pas dans un territoire administratif. La langue et la culture en général ne connaît pas de frontières, finalement. Alors certes, historiquement, elle a été délimitée, et donc on respecte cette délimitation plutôt linguistique et historique qu'administrative.
J'ai pu voir sur votre site, encore une fois, que vous avez décidé déjà des villes et des dates de départ et d'arrivée de la course de l'an prochain. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de l'édition de 2022?
Alors, il est vrai que, comme on disait au départ, la course, normalement, c'est tous les deux ans, et c'est les années paires. Et donc, on s'était posé la question de, est-ce que après 2021, on attend 2023 pour laisser l'année au milieu ou pas? Et on a décidé que non, qu'on ferait les deux d'affilée, un pour retrouver notre rythme habituel des années paires, et en même temps, parce que dans les années impaires, il y a une autre manifestation qui s'appelle Guébébé, donc Gwel Bois de l'Arbre Bretonnec, donc la fête de la langue bretonne qui se passe à Langonnette. Et souvent, c'est les mêmes bénévoles, et c'est deux animations différentes, mais qui permettent aussi d'animer chaque année. Une année la Redadeg, une année la fête de la langue bretonne à Langonnette, même si c'est pas même la même période puisque c'est en juillet. Mais c'est important que chaque année on respecte des cycles comme ça. Et le fait de retourner sur une année paire, ça nous permet aussi d'aller courir au Pays Basque au mois de mars pendant les années impaires, et ça permet aussi aux Basques de venir courir en Bretagne. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de garder à la suite les deux éditions, même si effectivement ça va être compliqué à gérer les deux d'affilée, mais on est déjà en train de travailler dessus. Et effectivement, on a choisi du 20 au 28 mai pour essayer de caler à peu près avec la fête de la Bretagne. Souvent, on travaille en partenariat avec eux quand il n'y a pas d'annulation. Et c'est important pour nous d'être sur ces dates-là. Et puis, en même temps, ça permet, quand il y a des jours fériés, d'avoir un peu plus de bénévoles qui soient présents. Et donc, pour l'année prochaine, le départ, ce sera Vitré, et l'arrivée, ce sera Vannes.
Pour finir, la Redadeg, du coup, comme vous l'avez dit, ça existe depuis 2008. Est-ce que vous avez quelques anecdotes ou une édition qui vous a particulièrement marqué?
Alors, pour le coup, moi, je suis salariée que depuis 2017, donc j'en ai fait, en fait, deux. Celle de 2016 et celle de 2018, sachant que j'étais bénévole, moi, en 2016. Et donc dans le camion d'animation, et je l'ai fait de nuit. Donc moi j'étais sur l'animation du centre Bretagne, entre 2h du matin et 6 ou 7h. Et c'est assez formidable de voir que même la nuit, on peut avoir des gens qui courent Et c'était assez... Je me souviens du Fawet notamment, où le bar du Fawet qui est au niveau des Halles avait demandé l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 4-5 heures du matin de manière à justement à proposer une animation le temps du passage de la course à 4 heures du matin. Et c'était assez beau de voir les Halles complètement illuminées, d'avoir des gens à attendre justement le passage de la course sur le centre-ville. Et ça, c'était un moment assez beau. Et ce qui est assez beau aussi en général, là c'était à Sker, à 7h du matin, c'est les enfants, parce que les enfants sont extrêmement motivés à l'idée de courir derrière le camion. Et ça donne une énergie supplémentaire qui est assez folle. Donc ça, c'est les deux grands souvenirs que j'en ai pour l'édition 2016.
Je rappelle qu'il reste des kilomètres de disponibles autour de Nantes et de Rennes pour cette édition un peu spéciale de l'année 2021. Donc si vous êtes intéressé pour courir pour la langue bretonne, rendez-vous sur le site de la Redadeg. Ce n'est pas trop tard, mais dépêchez-vous, ça part très vite. Merci encore à vous, Tiffaine, Ciré, d'être venue nous présenter la Redadeg. Bonne journée. Au revoir.
Merci, avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Toujours sur le 101.1 FM, c'est vous qui le dites, touche à sa fin. Nous remercions une nouvelle fois Louise Rass, coordinatrice scientifique de l'association Sailing Hirondelle. Suivez leur expédition sur les réseaux et sur leur site internet. Merci également à Tiffaine Ciré, chargée de communication de la Redadec. Suivez la course sur le site et les réseaux sociaux. Réécoutez cette émission ainsi que toutes les autres émissions de la radio en podcast sur le site internet de Radio U et retrouvez à 20h Loïc et son émission Rock et Boomer. Mais tout de suite, retrouvez le Labu à 19h sur le 101.1 FM.